Voilà, donc bonsoir à chacun d'entre vous, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Nous allons nous mettre en route pour tout un itinéraire qui est, comme vous l'avez vu dans le programme, assez riche. Et dans cette première séance, je voudrais d'abord faire peut-être une mise au point sur les termes qui composent l'intitulé général du cours « Histoire et théologie de la spiritualité ». Qu'entendons-nous par histoire ? Qu'entendons-nous par théologie ? Qu'entendons-nous par spiritualité ? Et nous allons voir que les choses sont beaucoup plus subtiles et complexes qu'il n'y paraît. Est-ce que c'est un petit peu fort ? Ça va, j'écarte le micro. Et que selon la réponse que nous apportons à ces questions, eh bien le cours pourrait prendre des visages ou des orientations très différents. Alors d'abord, le mot « histoire ». Qu'entendons-nous par histoire ? Au moins trois manières de considérer l'histoire. Ainsi, je demandais à chacun d'entre vous, donnez-moi une définition d'histoire. Pas simple, hein, en quelques mots. Première manière de considérer l'histoire, c'est le sens que nous donnons à ce mot, spontanément, dans notre monde moderne, contemporain. L'histoire, c'est l'événement qui arrive. C'est la Geschichte allemande, hein, l'événement, ce qui se passe. C'est le sens auquel nous pensons spontanément. Et donc cette histoire-là, elle prétend à une certaine objectivité. Hein. C'est l'événement tel qu'il se produit, l'événement empirique. Le livre d'histoire qui prétend raconter les choses telles qu'elles se sont passées, avec l'objectivité la plus grande possible. Et puis ensuite, vous avez, et c'est une première subtilité à intégrer, l'histoire, l'historia, venant du grec historéo, qui veut dire raconter. Alors là, on ne parle plus de l'événement tel quel, objectif, tel qu'il advient, mais de la manière de raconter l'événement. Ça aussi, c'est l'histoire. Je raconte l'événement. Je le fais connaître. J'ai été témoin de quelque chose, j'ai été acteur d'un événement, et je le raconte. Et là, évidemment, la subjectivité de la personne commence déjà à se manifester davantage. Parce que le même événement va être raconté, on le sait par les médias, hein, de manière extrêmement différente, selon l'opinion, l'orientation de celui qui raconte. Et puis enfin, il y a le sens biblique du mot histoire. Je m'arrête sur celui-là parce que c'est le sens, la signification que nous adopterons dans ce cours, hein, qui ne sera pas un cours d'histoire au sens commun du mot. Dans la pensée d'Israël, hein, dans la mentalité de la révélation, dans la Bible, l'histoire, ça n'est pas d'abord l'événement empirique, objectif. Ça n'est pas non plus d'abord la manière de raconter l'événement, le récit, hein, la relation de l'événement, mais c'est ce que l'événement raconté engendre dans le lecteur ou l'auditeur. Pour Israël, l'histoire, c'est un engendrement. L'histoire sainte, hein, qu'est-ce que c'est l'histoire sainte dans la Bible ? C'est la mémoire qu'a Israël de son engendrement, de sa naissance comme peuple de Dieu. Vous voyez, c'est une acception complètement différente du mot. C'est le sens de ce qu'on appelle dans la Bible, en hébreu, en particulier dans la Genèse, hein, les toledotes, les engendrements, les généalogies, les générations. Dans la Genèse, vous avez comme ça 11 généalogies, des tables généalogiques qui nous sont rapportées. Hein. Un tel engendra un tel, il vécut tel nombre d'années, et puis il engendra des fils et des filles, et puis il mourut. Et on retrouve ça jusque dans l'Évangile. Hein. Évangile de Matthieu, chapitre 1, engendrement ou généalogie de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Puis vous avez comme ça 14 plus 14 générations jusqu'au Christ. C'est ça l'histoire, hein, une succession de générations, d'engendrements. Et donc l'histoire de la spiritualité, et plus largement l'histoire de l'Église, elle est à comprendre dans cette lumière-là. Hein, c'est un engendrement dans la foi. Donc nous ne sommes pas ici d'abord pour acquérir, vous voyez, des connaissances historiques sur telle ou telle figure spirituelle ou tel courant de spiritualité, même si évidemment on va parler d'événements, on va parler de personnes, on va parler d'histoire. Mais ce qui compte le plus, c'est ce qui va se passer en nous, ce qui va être engendré en nous, la manière dont nous-mêmes nous allons être transformés par ces figures spirituelles que nous allons fréquenter. Et dans toute l'histoire sainte, et cette histoire sainte qui se poursuit aussi en nous aujourd'hui, eh bien, dans les événements, à travers les événements qui se produisent, cachés en eux ou derrière eux, hein, si l'on peut dire, il s'agit de décrypter la réalité profonde de l'histoire, c'est-à-dire la manière dont Dieu conduit, la manière dont Dieu aime l'homme, tisse une alliance avec lui, et la manière dont Dieu fait naître, fait grandir en nous sa vie, sa présence. Donc ce qui compte finalement, on pourrait dire, c'est l'histoire intérieure. Et il y a l'histoire extérieure, il y a l'événement, il y a ce qui nous arrive, il y a la manière dont on le raconte, et puis il y a l'histoire intérieure. Il y a ce qui s'est passé ce jour-là, hein, un terme qui revient constamment dans l'écriture, en ce temps-là, ou en ce jour-là, et puis il y a ce jour-là qui est un jour qui se poursuit dans notre aujourd'hui. Et donc l'histoire intérieure, c'est ce qui s'engendre en nous, ce qui naît en nous, ce qui grandit en nous, quand nous fréquentons à la fois l'histoire sainte, hein, l'histoire biblique, mais aussi quand nous fréquentons ces grandes figures spirituelles, les saints, qui éclairent, qui accompagnent toute l'histoire de l'Église. Et donc, vous voyez, ça donne déjà une orientation à ce cours. Nous ne regarderons pas les saints comme des figures de musée, ou comme des modèles, mais nous les regarderons comme des pères, comme des mères, comme des gens qui donnent la vie, qui sont porteurs de vie dans l'Église, des gens qui tracent le chemin et qui nous entraînent dans la vie théologale, dans la vie divine. Voilà pour l'histoire. La théologie, là encore, hein, le mot demande à être quelque peu clarifié parce qu'il peut recevoir des acceptions assez différentes. La théologie, selon notre conception la plus commune, moderne, contemporaine, hein, c'est un discours sur Dieu. Hein, théologos, un raisonnement sur Dieu, un discours sur Dieu. Mais avant ce sens-là, il faut revenir à l'origine du mot théologie. Avant d'être une parole ou un discours sur Dieu, la théologie, elle est d'abord parole de Dieu. Elle est parole à Dieu. Elle est même parole en Dieu. Alors je reprends ça. La théologie, en particulier dans les premiers siècles, pour les pères, eh bien elle est d'abord parole de Dieu. Jusqu'au VIe siècle, chez les pères grecs, la théologia, elle désigne souvent l'écriture elle-même, hein, la parole de Dieu, spécialement l'évangile, et même le verbe de Dieu lui-même, hein, le Christ, le verbe fait chair, c'est lui qui est le théologos, le verbe de Dieu. Et donc c'est le Christ qui est à la fois le modèle et l'objet de la contemplation théologique. Hein, il est, comme nous le rappelle Saint Jean dans son prologue, hein, il est tourné vers le sein du Père, c'est lui qui nous le fait connaître, hein, c'est ça le théologien, c'est celui qui fait connaître Dieu. Hein. Il est celui qui nous transmet tout ce qu'il a entendu de son Père, hein, toujours dans l'évangile de Jean, et il le dit comme le Père le lui a dit, parce qu'il fait toujours ce qui lui plaît. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Et donc le Christ est source et modèle de la théologie, et cette théologie, elle naît donc de l'écoute croyante du Christ, qui est la parole vivante de Dieu. Et donc en ce sens-là, la théologie, qui est parole de Dieu, qui est la parole de Dieu, elle devient aussi parole à Dieu. Et qu'est-ce que c'est cette parole à Dieu? C'est la prière. C'est la réponse que le croyant adresse à Dieu. À l'écoute de sa parole, l'homme est appelé à donner une réponse croyante, une réponse aimante. Et donc la théologie est aussi prière, parole à Dieu. Et dans les premiers temps, on désignait comme théologie une parole à Dieu sous forme d'hymne, une hymne d'action de grâce, une hymne liturgique, une hymne de louange. C'est aussi ça la théologie, hymne de louange. Ce qui veut dire, voyez, que la théologie a une portée, une orientation essentiellement contemplative. Ça ne peut pas être une science desséchante, uniquement rationalisante sur des concepts aussi beaux soient-ils. Mais cette réflexion de l'intelligence demande à être constamment vivifiée, animée par la foi. Et une foi qui cherche à connaître Dieu en l'aimant. Il n'y a pas de connaissance de Dieu qui puisse être séparée de l'amour. Dieu est lumière et Dieu est amour. Et donc la théologie cherche Dieu, cherche à connaître Dieu en l'aimant, et dans l'acte de foi, le croyant qui pose un acte de foi, commence à découvrir la bonté de Dieu et désire le connaître davantage. Vous voyez, donc la connaissance et l'amour s'appellent constamment et font partie de la démarche théologique. Donc je ne peux pas faire de théologie au sens plénier du terme en dehors de la foi. Pour bon nombre d'entre vous, ce sont peut-être des évidences, mais au moins nous serons d'accord sur le point de départ du parcours. Et prétendre connaître Dieu de l'extérieur, et comme un spectateur, sans désirer communier avec lui, donc être associé à son mystère, sans désirer l'aimer, et donc sans désirer devenir un saint, c'est se condamner à ne pas connaître Dieu. Puisque Dieu est amour, comment voulez-vous le connaître en vérité sans désirer l'aimer? Donc le théologien n'est pas premièrement un savant, même s'il est appelé vraiment à mettre toutes les ressources, toute la noblesse de son intelligence au service de sa foi, avec une très grande rigueur, un très grand labeur. Mais avant même d'être un savant, il est un croyant. Et donc son labeur théologique, sa recherche, accompagne ou s'accompagne d'un chemin personnel de conversion et de sanctification. C'est toute la personne et pas seulement l'intelligence qui est appelée à se laisser transformer par la lumière reçue. On a pu dire dans ce sens-là que la théologie, c'est une connaissance transformante, une connaissance qui me transforme. Il se passe la même chose dans l'Eucharistie, où nous sommes transformés en celui que nous recevons. Et bien c'est la même dynamique qui anime la théologie, être transformé par celui que nous cherchons, que nous aimons. Arrivé là, on comprend tout de suite non seulement l'erreur, mais le drame qu'a pu représenter pendant des siècles, depuis la fin du Moyen-Âge, le fait de séparer théologie et spiritualité, ou théologie et sainteté. On a pu parler d'un véritable divorce, où la théologie et la spiritualité se sont ignorées, voire même opposées. Et ça, c'est aussi dommageable pour l'un que pour l'autre. Parce que la théologie qui ne s'accomplit pas ou qui ne s'explicite pas dans la vie spirituelle se dessèche. Elle devient manipulation plus ou moins experte de concepts. Et inversement, la spiritualité doit, pour rester authentique, pour être validée, la spiritualité nécessite l'analyse, la réflexion théologique, qui va être garante de la spiritualité. Alors, je viens d'employer le mot spiritualité, on ne s'est pas encore mis d'accord sur le sens de ce mot, là encore. Première question, spiritualité, au singulier ou au pluriel? D'abord, le mot spiritualité n'apparaît pas dans la Bible. Il n'existe même pas ni en hébreu ni en grec. En revanche, il y a un mot qui apparaît très fréquemment notamment sous la plume de saint Paul, c'est l'adjectif, hein, spirituel, pneumatikos. Que veut dire saint Paul quand il emploie cet adjectif spirituel? En un sens, on peut dire qu'il parle de la vie de l'esprit, avec un petit e, hein, par opposition à la vie de la chair. L'homme n'est pas que chair, il vit, il a un esprit, et donc il y a en lui, comme le dit saint Paul, la loi de la chair et la loi de l'esprit. Hein. Et donc il y a l'homme psychique, il y a l'homme spirituel. Hein. Mais cette vie de l'esprit, elle est aussi vie de l'esprit avec un grand E, la vie de l'Esprit Saint en nous. La spiritualité, c'est aussi la vie dans l'Esprit Saint, la vie de l'Esprit avec un grand E. Parce que l'homme n'est pleinement lui-même que quand il est animé par cet esprit-là, quand il vit dans la grâce. Au fil des siècles, des époques, le mot s'est déformé, hein, et on en est venu à parler de spiritualité à peu près à propos de tout et de n'importe quoi. Vous voyez, on va parler de... Je n'ai rien contre, hein, mais on va parler d'une spiritualité de l'action ou d'une spiritualité du service. Vous voyez, des mots qu'on emploie comme ça, c'est très beau, hein, mais il faut être conscient du glissement que le mot a subi, hein, et on parle de spiritualité pour indiquer un élan, une ambiance, un mouvement, hein. Et on va même parler de spiritualité pour désigner n'importe quelle recherche d'une vie spirituelle, hein. On va parler de spiritualité bouddhiste ou de spiritualité du Nouvel Âge, par exemple, hein. C'est encore un autre sens du mot, voyez, hein. On est loin du sens initial, hein, où le mot désigne une vie dans l'Esprit Saint. Le cardinal Lustiger disait, je cite, hein, il n'y a de spiritualité que là où il y a le Saint-Esprit. Donc la spiritualité au sens fort, elle n'est que chrétienne, quand on prend le mot dans ce sens-là, hein, même si évidemment je ne méprise ou je ne dévalorise absolument pas la quête spirituelle que l'homme peut avoir dans une autre religion. Hein. Mais la spiritualité dont nous parlerons ici, c'est la spiritualité au sens de la vie de l'Esprit-Saint. Hein. Donc une spiritualité chrétienne. Et quand on parle au pluriel de spiritualité, on va dire spiritualité jésuite, spiritualité franciscaine, spiritualité carmélitaine, on indique là encore une couleur particulière de cette vie dans la grâce, mais toujours en référence à cette unique spiritualité qui est celle du Christ. Ou quand on parle de spiritualité sacerdotale, ou de spiritualité laïque, ou autre, attention! On comprend, hein, ce que ça veut dire, mais il n'y en a qu'une spiritualité. C'est la vie de l'esprit dans le baptisé, hein, la vie de l'esprit en nous. Donc ce cours s'appelle, bien sûr, figure spirituelle, mais avant cela, histoire et théologie de la spiritualité, au singulier. Hein, c'est pas pour rien, on aurait pu mettre histoire des spiritualités, mais tout de suite, vous voyez, ça donne un peu une autre orientation. Alors je voudrais ajouter un autre mot à ce que je viens déjà de préciser, c'est le mot tradition. Histoire et tradition. Benoît XVI, quand il a fait en 2006, vous savez, ses catéchèses où il a regardé le mystère de l'Église, et puis ensuite il a pris tous les apôtres un par un, et puis les saints, et bien avant de commencer toute la série de catéchèses sur chacun des 12 apôtres, il a fait 3 catéchèses magnifiques, donc c'était du 26 avril au 10 mai 2006, sur le mystère de la tradition. Donc je m'inspire de ce qu'il disait pour vous faire sentir ce lien, mais aussi ces nuances qui existent entre histoire et tradition. Et l'histoire de l'Église, est-ce que c'est la même chose de parler d'histoire de l'Église ou de parler d'histoire de la Belgique ? Vaste question. Parce que l'histoire de l'Église, ça n'est pas d'abord une succession d'événements, hein, ce qui s'est passé au fil des siècles, depuis le Christ, hein, mais c'est d'abord une tradition de vie. Hein. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. C'est un vivant qui grandit, qui se développe, qui, comme tout vivant, vous voyez, connaît des étapes particulières de croissance, hein, qui nous sont manifestés justement par les saints, que l'Esprit Saint a suscité à tel ou tel moment de la vie de l'Église, et qui explicite au fil du temps, hein, au fil des époques, selon les besoins de chaque époque, bien les saints explicitent quelque chose du mystère chrétien. Comme un vivant qui, en grandissant, en se développant, découvre ce qu'il est, hein, et des choses qui ne s'explicitent qu'avec le temps. Et donc, dans cette histoire de l'Église, entre guillemets histoire, hein, il n'y a pas de fossé entre le passé et le présent. Et ça, c'est le mystère de la tradition. Hein, Benoît XVI disait, la tradition, elle est communion dans le temps. De sorte que nous sommes en... Il y a aussi une communion dans l'espace, hein. De par le baptême, nous sommes en communion avec tous les croyants, hein, qu'ils habitent de l'autre côté de la planète ou juste à côté de chez nous. Mais nous sommes aussi en communion avec tous les croyants qui nous ont précédés. Vous voyez, la tradition, comme disait le Saint-Père, c'est un fleuve de vie, hein, un fleuve vivant dans lequel les origines sont toujours présentes. Et donc nous sommes contemporains de ces croyants que nous allons rencontrer au fil de nos séances. Donc non seulement le passé est contenu dans le présent, vous voyez, comme un vivant qui porte toujours en lui son origine, hein. Je suis né il y a peut-être 40 ans, 50 ans, 70, enfin 70 ans, 80 peut-être, mais je n'ai pas laissé derrière moi tout ce que j'ai vécu. Je le porte en moi, cette histoire, elle est la mienne. Et donc je porte en moi ma naissance. Eh bien, il y a quelque chose comme ça dans la tradition, hein, dans l'histoire de l'Église. Je cite Benoît XVI, hein, « Tous les temps nous appartiennent. Les croyants du passé et les croyants de l'avenir également forment avec nous une grande et seule communion. La tradition n'est pas une transmission de choses ou de paroles, une collection de choses mortes. La tradition, c'est le fleuve vivant qui nous relie aux origines, le fleuve vivant dans lequel les origines sont toujours présentes, le grand fleuve qui nous conduit aux portes de l'éternité. La tradition est donc l'histoire de l'esprit, avec un grand E, qui agit dans l'histoire de l'Église à travers la médiation des apôtres et de leurs successeurs, en continuité fidèle avec l'expérience des origines. » Donc vous voyez, nous sommes contemporains des grandes figures spirituelles que nous rencontrerons. Donc dans nos rencontres, bon, on limitera, enfin bien sûr, je parlerai de un peu la dimension historique, biographique des saints, pour qu'on puisse quand même les situer, hein, à l'époque où ils ont vécu, dans le contexte qui était le leur, mais je limiterai ça à ce qui est nécessaire, au minimum. Mais ce qui nous intéressera le plus, c'est la manière dont ils s'inscrivent dans ce grand fleuve vivant, la manière dont ils appartiennent à la tradition, et puis nous chercherons surtout à comprendre ce que l'Esprit-Saint veut nous dire à nous aujourd'hui à travers eux, qui sommes leurs contemporains. Alors peut-être en quelques mots... qui sont ces saints ? Je regarderai peut-être plus en détail le programme avec vous après, mais qui sont les saints ? Que désigne le mot ? Dans le Nouveau Testament, vous savez peut-être ça, à l'origine, le mot « les saints », c'est tout simplement les fidèles du Christ, les croyants. Dans les Actes des Apôtres, vous trouvez à maintes reprises la désignation « les saints » pour parler des chrétiens. Actes 9, 13, vous savez, quand Ananie, au moment de la conversion de Saul de Tarse, hein, le Seigneur donne une mission à Ananie, et puis Ananie répondit « Seigneur, j'ai entendu beaucoup de monde parler de cet homme et dire tout le mal qu'il a fait à tes saints, à tes fidèles, hein, aux croyants, à Jérusalem. » Ou bien quand Pierre se rend à Jopé, hein, il ressuscite une jeune femme nommée Tabitha, lui prenant la main, Pierre la fit lever, appelant alors les saints et les veuves, il la leur présenta vivante. Donc vous voyez, à l'origine, et c'est bien de se rappeler ça, parce que ça nous redit quelle est notre vocation, les saints, ce sont les fidèles du Christ, ceux qui embrassent la foi en Jésus. Mais ensuite, on voit se dégager rapidement dans l'histoire de la sainteté chrétienne, aussi bien en Orient qu'en Occident, une sorte de typologie de la sainteté. Vous voyez, tout un, oui, qui dessine comme un paysage spirituel de la sainteté. Les premiers saints dont on a commencé à commémorer la mémoire, ce sont les martyrs. En particulier dans ces premiers siècles où l'Église, le christianisme n'était pas religion d'empire, hein, il y a eu des grandes persécutions, on en parlera un petit peu la semaine prochaine, même si la séance ne sera pas intégralement consacrée à ça, mais les premiers saints, ce sont les martyrs, ceux qui ont donné leur vie pour rester fidèles au Christ. Et puis, à la fin des persécutions, quand le christianisme, au début du IVe siècle, hein, devient religion de l'Empire romain, eh bien, apparaissent alors de nouveaux types de saints. On va parler des ascètes, des moines, hein, ceux qui partent au désert. On va dire que c'est une sorte de martyr non sanglant. Vous voyez, il y a le martyr sanglant, hein, ceux qui donnent leur sang pour le Christ. Et puis, il y a le martyr par choix et permanent de la vie monastique. C'est une autre forme de martyr. Et puis apparaissent les saints fondateurs de monastères, les abbés. Et puis les siècles passent. Du Xe au XIIIe siècle, le saint sera davantage décrit comme un homme religieux, un adulte religieux. C'est le temps des rois saints ou des moines angéliques. Et puis l'apparition de la vie apostolique, hein, au XIIe, XIIIe siècle, pensez aux ordres mendiants, les dominicains, les franciscains, hein, les prédicateurs. Et puis quand ce courant évangélique se retrouve en conflit avec les clercs, hein, je ne dis pas avec l'Église, mais davantage avec les clercs, ou bien les abbés, notamment parce que ce mouvement mendiant est une remise en cause vivante de l'enrichissement de bon nombre de monastères, ou de clercs à l'époque, eh bien s'affirme alors par contre-coup une sainteté mystique, laïque, féminine souvent, hein, qui est comme une, je dirais pas une opposition, vous voyez, mais une quelque chose qui accompagne cet élan apostolique des ordres mendiants, cette prédication, ce renouveau de l'Église, qui vient remettre en question l'authenticité de l'Église pauvre voulue par le Christ. Alors se développe une sainteté des mystiques. On en verra un exemple aussi dans notre parcours, hein, une femme. Et puis, Concile de Trente, XVIe siècle, hein, là aussi, la volonté de renouveler le paysage de la sainteté fait que on continue d'honorer les saints anciens, hein, mais on met aussi en valeur des nouvelles figures, hein, qui sont représentatives de la réforme catholique. C'est l'époque d'Ignace de Loyola, dont on parlera. C'est l'époque de François Xavier, de Philippe Néri, Thérèse d'Avila, hein, qui seront canonisées très rapidement, hein, dès le XVIIe siècle, début du XVIIe. Et donc c'est une sainteté qui est aussi une sainteté missionnaire. Le saint, c'est un évangélisateur, un missionnaire, quelqu'un qui... pas seulement un évangélisateur au sens de partir à l'autre bout du monde, hein, mais c'est aussi la réforme, la contre-réforme catholique. Le XVIIIe siècle va poursuivre, hein, dans le même mouvement, en canonisant beaucoup de religieux, mais aussi des évêques, des papes, des missionnaires, des martyrs, des jeunes. Et puis le XIXe siècle, qui est la grande période de la reconnaissance de cultes anciens, hein, de saints qu'on avait oubliés, et qu'on a remis à l'honneur. Mais le XIXe siècle insiste aussi sur l'Église missionnaire, hein, les grands auteurs spirituels, la mise en valeur, la mise en lumière de la sainteté de ceux qui ont œuvré dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, et puis la sainteté des humbles aussi, des petits. Finalement, tous sont appelés à la sainteté, et les petits en premier lieu. Et puis au XXe siècle, enfin, la sainteté, le paysage de la sainteté, on pourrait dire, aborde comme une nouvelle étape, hein, notamment depuis Jean-Paul II, hein, avec les multiples béatifications et canonisations de chrétiens de l'époque moderne. On canonise pas seulement des gens qui ont vécu 5 siècles avant nous, mais on canonise des gens que certains d'entre nous ont connus, parce qu'ils sont canonisés rapidement. Et donc là aussi, il y a comme une tendance nouvelle qui est une diversification extraordinaire dans les canonisations. La sainteté multiforme des laïcs, de ceux qui ont vécu spécialement un engagement familial, on canonise des époux, ceux qui ont un engagement social, politique, culturel. C'est aussi l'âge de la sainteté des enfants, des jeunes, mais aussi des vieillards et des handicapés. Vous voyez donc, le saint ne se ramène pas à un type donné. C'est la vocation de chacun. Et au fil des siècles, on voit comme se déployer une mise en lumière de tous les types de sainteté, même si l'expression n'est pas très heureuse, mais de tous les portraits, on pourrait dire, que l'Église se plaît à nous présenter. Mais alors, vous allez me dire, quel lien existe-t-il exactement entre sainteté et théologie? Parce que parmi tous ces saints, il y en a bon nombre qui ne sont pas théologiens, au sens précis du terme, puisqu'on a canonisé des enfants, on a canonisé des saints qui n'ont rien écrit du tout, certains même qui étaient analphabètes. Le lien entre sainteté et théologie, il est évident quand on parle d'un docteur de l'Église ou d'un saint Thomas d'Aquin, mais quand on parle de la petite sainte Bernadette ou de saints qui savaient à peine lire, quel est le lien? En quoi les saints sont-ils du coup intéressants pour la théologie? En quoi nous aident-ils pour un cours de théologie? Eh bien, si les saints ne sont pas tous des théologiens par leurs prédications ou leurs écrits, ils le sont par leur vie. La vie des saints, c'est une page d'évangile vivante. C'est comme l'évangile vécu, où le mystère du Christ se donne à lire dans la vie des saints. Et donc on peut dire, en toute vérité, en toute rigueur de terme, que la vie des saints, elle donne corps, elle donne chair à la parole de Dieu. Elle incarne cette parole dans la vie de telle personne concrète. Et donc elle est comme la chair vivante du discours théologique. C'est une théologie vécue. Et on peut donc même aller jusqu'à dire que c'est dans la vie et dans la parole des saints que l'Église est pleinement théologienne. Si on prend évidemment le mot théologie dans le sens que je vous rappelais précédemment. Le théologien, c'est celui qui cherche à connaître et aimer Dieu, à l'aimer pour le connaître, à le connaître pour l'aimer. Donc c'est dans les saints que l'Église est pleinement théologienne, parce que ce qui caractérise le saint, c'est justement la charité. Le saint, c'est celui qui aime. Et c'est celui non seulement qui aime, mais celui dont l'amour de Dieu remplit toute la vie. C'est ça le saint. Et en laissant l'amour du Christ remplir toute sa vie, en répondant de la manière la plus dense, vous voyez, la plus vivante possible à cet amour du Christ, eh bien le saint met en lumière quelque chose du mystère de Dieu. En cela, il est théologien. Par la charité qui l'habite, il donne à connaître une facette, une étincelle évidemment, mais quelque chose du mystère de Dieu qui est amour. C'est pour ça que dans la présentation du cours, je commençais par rappeler ce premier nom, un nom syriaque qui avait été donné aux ascètes, un Ihidaya, qui signifie celui qui n'a qu'un cœur, qu'un amour. C'est ça le saint, celui qui n'a qu'un amour et qui va organiser toute son existence, toute sa vie en fonction de cet amour-là. Donc les saints, ce sont des amoureux. Et donc ce sont ceux qui vivent déjà sur cette terre, vous voyez, autant qu'il est possible, la connaissance de Dieu, connaissance au sens biblique, connaissance intime, connaissance aimante, une connaissance qui est communion. Donc les saints seront aussi nos maîtres pendant tout ce parcours. Et nous essaierons de voir en chacun d'eux se refléter à son époque, le visage, l'unique visage du Christ, que nous avons à notre tour à refléter d'une manière nouvelle aujourd'hui. Donc, en plus de la séance de ce soir, vous voyez que nous aurons 12 séances. Évidemment, il a fallu faire des choix. Vous allez me dire, 12 en même temps, c'est un chiffre magnifique, parce que justement, pensez à l'Apocalypse, hein, c'est le symbole de la plénitude, 12. Hein. Mais malgré tout, il a fallu faire des choix, et donc, qui dit choix, évidemment, implique en même temps un aspect à la fois partial et partiel. Alors, je vous donne les critères qui ont guidé un peu mon choix pour ces séances. D'abord, j'ai choisi un itinéraire qui, de fait, épouse un peu le cours de l'histoire, puisque c'est dans cette histoire, dans cette tradition, hein, siècle après siècle, que l'Esprit-Saint conduit l'Église. Donc, suivre l'histoire, vous voyez, suivre le fil de l'histoire, voir comment l'Église a été conduite à chaque époque, c'est déjà un principe certain de vérité. J'ai essayé de... Même si vous pourrez toujours faire des remarques, hein, c'est pas possible de ne pas parler de tel saint, c'est une figure essentielle, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a des lacunes évidentes. Hein. Il y a un choix. Mais en tout cas, un itinéraire qui épouse le cours de l'histoire. Et puis, mon deuxième critère, c'était, à l'intérieur de ce mouvement de l'histoire, de la tradition, j'ai essayé donc de choisir des figures, parfois très connues, parfois un peu moins, hein, mais en tout cas qui sont chacune particulièrement représentatives d'un aspect du mystère chrétien. C'est pour ça que si vous regardez le programme, ça n'est pas la figure spirituelle elle-même qui est mise en gras, hein, pour chaque séance, mais c'est plutôt un aspect du mystère chrétien. De telle sorte que, à travers ces figures spirituelles, c'est vraiment nous essaierons de regarder l'intégrité du visage du Christ, la plénitude de la vie spirituelle qui nous est proposée de vivre, en découvrant à chaque fois une facette à travers telle ou telle figure qui a mis plus en lumière cet aspect du mystère chrétien. Donc j'essaierai, à travers cette douzaine de grandes figures, de vous proposer, en regardant ces figures l'une après l'autre, au fil du temps, mais toutes ensemble, hein, de vous proposer comme un visage de la spiritualité chrétienne. Tel saint va mettre en lumière plus l'importance de la parole de Dieu dans la vie chrétienne, tel autre va nous parler de l'oraison, tel autre va nous parler du combat spirituel, tel autre va nous parler de la nécessité d'être missionnaire, et tout ça, ça fait partie de la spiritualité chrétienne. Donc, peut-être que vous auriez pu préférer telle ou telle autre figure, mais en tout cas, à travers celles qui nous accompagneront, j'espère que nous aurons un portrait à peu près complet de la spiritualité chrétienne. Donc, je vais peut-être les reparcourir très rapidement avec vous. Donc, la semaine prochaine, nous regarderons d'abord l'enracinement du christianisme dans le mystère d'Israël. Nous avons reçu tout un héritage. Le Christ lui-même a voulu venir dans ce judaïsme, ce monde d'Israël. Et donc, nous avons à comprendre, à connaître l'héritage que nous avons reçu, pour saisir à travers ça aussi toute la force de la nouveauté chrétienne. Ce que nous avons reçu et ce qui est entièrement neuf. Donc ça, on regardera la semaine prochaine. Et puis ensuite, à travers donc les pères du désert, les premiers moines, nous serons comme éveillés à la dimension du combat spirituel, la nécessité du discernement des esprits. Qui me parle ? Moi, Dieu, le diable, hein ? La vie chrétienne est un combat. Et ce combat implique un discernement, implique de prendre les bonnes armes, implique de savoir comment lutter. Et ça, c'est très présent chez les pères du désert, hein, les premiers moines. Ensuite, pour l'époque des pères de l'Église, donc Saint Grégoire de Nice, pour faire honneur aussi à l'Orient, hein, Et puis parce que Grégoire de Nyssa, c'est celui qui nous rappelle sans cesse le dynamisme et le but de la vie chrétienne. Nous marchons, nous désirons la béatitude. Et Grégoire de Nyssa, c'est pas la béatitude, vous voyez, regardez comme un état statique. Un jour, nous verrons Dieu face à face. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être long. L'éternité, verrons Dieu. Non, Grégoire de Nyssa va nous montrer que c'est une vie qui va de commencement en commencement. C'est une perpétuelle ascension. C'est une croissance qui n'aura pas de fin. Ensuite, nous rencontrerons Saint Bernard, donc plusieurs siècles plus tard, mais on fera un grand bond dans l'histoire. Et en particulier, il y aurait énormément de choses à dire chez Saint Bernard, mais peut-être une mise en lumière très particulière de la place de la parole de Dieu, le miel de la parole, et puis la place centrale de l'amour. L'amour, c'est tout. L'amour n'a d'autre mesure que l'amour. Et puis ensuite, c'est donc Sœur Noël Haussmann qui donnera le cours sur Adowaig d'Anvers, donc le courant de la mystique féminine, Adowaig d'Anvers qu'on a redécouverte assez récemment encore, alors qu'elle a rempli un rôle, une place, une influence absolument essentielle. Elle est comme la mère de toute la mystique réno-flamande. Et on comprendra en ce sens-là que la vie mystique n'est pas une vie réservée à quelques mystiques, comme on dit, gratifiés d'expériences extraordinaires, charismatiques, inimitables, mais que la vie mystique, ça n'est que la vie baptismale qui s'épanouit en plénitude, et donc la vie à laquelle est appelé tout chrétien. Ensuite, c'est le père Pierre Gervais qui nous présentera Ignace de Loyola, le sommet du siècle d'or espagnol, soldats et missionnaires du Christ, et puis l'actualité permanente de ces exercices spirituels, bien sûr, centraux dans la vie du chrétien. Thérèse d'Avila, pour le mystère de l'oraison, la prière silencieuse, le cœur à cœur avec le Christ, les demeures dans la vie d'oraison. La prière vue comme la source et l'âme de tout apostolat aussi. Et puis François de Sales, qui sera comme un prolongement de tout ce que Thérèse d'Avila révèle sur l'oraison. François de Sales est celui qui va nous montrer comment cette vie spirituelle, cette vie d'oraison, elle n'est pas à vivre seulement à l'abri d'un cloître, mais dans tous les états de vie. La sainteté pour tout chrétien, là où il est, au cœur du monde. Dans une soirée que j'ai intitulée d'une manière un peu provocante « La dévotion au cœur du Christ, une affaire de femme ?» point d'interrogation. Il faut bien que ce soit un peu publicitaire, ouais, c'est des titres purement provocants pour attirer. nous découvrirons un aspect essentiel de la spiritualité. Le cœur du Christ, c'est le réalisme de l'humanité sainte du Christ. La dévotion au cœur du Christ qui s'est développée au fil des siècles, elle s'enracine où ? À la croix. C'est Jean qui, à la croix, témoigne de l'ouverture du côté du Christ, de la blessure de son côté. Donc c'est la place, vous voyez, du réalisme, du mystère de l'incarnation et du mystère de la croix dans la vie chrétienne. Et puis enfin, le bienheureux Newman, au XIXe siècle. Donc on change d'époque, et là on est au cœur de la révolution industrielle, à l'aurore des temps modernes, et Newman, c'est une voix prophétique et qui nous fait réfléchir sur les défis que le chrétien rencontre dans le monde moderne et quel engagement le chrétien est appelé à remplir dans la société. À la fois il faut s'engager dans la société tout en vivant tout en vue du ciel. Et puis les tentations, les défis, les difficultés, mais aussi les propositions que le monde moderne nous adresse, font que le mystère chrétien s'explicite là aussi d'une nouvelle manière. Et Newman en a parlé admirablement. Et puis ensuite, donc à nouveau, Sœur Noël Haussmann présentera la petite Thérèse et sa voix toute nouvelle qui vient comme révolutionner notre idée de la sainteté. hein, en la remettant à notre portée. Hein. Et enfin, donc je ne le canonise pas avant l'heure, mais le cours ne s'intitule pas les saints, mais les figures spirituelles. Donc je vous proposerai en finale de ce cours de regarder ensemble les accents, les insistances du pape François, hein, qui là aussi essaie de réformer l'Église, vous voyez, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Hein. Comment redécouvrir à travers les paroles, mais aussi les gestes forts qu'il pose en permanence, la saveur originelle de l'Évangile. C'est une figure spirituelle parce qu'il essaie vraiment de remettre en lumière l'Évangile à l'état pur. Donc voyez, en chacune de ces figures, il s'agit finalement d'accueillir en premier lieu d'abord un frère ou une sœur aînée dans la foi, hein, quelqu'un qui a répondu à un moment précis de l'histoire, de la vie de l'Église, à Dieu qui est venu à nous dans le Christ. Alors, il ne s'agit pas de recevoir ces figures comme des modèles à imiter matériellement, voyez, parce que leurs époques ne sont pas les nôtres, hein, que les contextes sont différents, mais il s'agira d'abord de s'émerveiller d'abord de l'amplitude, hein, de la diversité, de la sainteté chrétienne, mais aussi de recevoir à travers chacune de ces figures un encouragement, un réveil, une remise en lumière d'un aspect de la vie spirituelle. Après, chacun de nous, évidemment, va, dans sa propre vie, incarner plus ou moins tel ou tel aspect, hein, mais toutes les facettes font partie du mystère chrétien. Alors, il me reste 10 minutes. Je voudrais avec vous, c'est pour ça que j'ai demandé que vous puissiez avoir devant vous la petite mosaïque qui illustre le programme de l'année. Je voudrais reprendre un peu tout ce que je vous ai dit en commentant cette mosaïque de la Jérusalem céleste que vous avez sous les yeux, j'espère à peu près tous. Quelques mots d'abord sur le... Donc c'est une mosaïque du père Roupnik, qui est un père jésuite, qui a fait un doctorat sur la signification théologique et missionnaire de l'art, et qui est maintenant donc directeur du centre Aleti, à Rome, hein, et qui est maintenant devenu très célèbre pour les multiples mosaïques qui lui ont été commandées dans des églises dans le monde entier. Comme vous le savez, une mosaïque est constituée de milliers, voire de dizaines de milliers, hein, de petits carrés des mots. Et cette multitude de petits morceaux minuscules, finalement, constitue une scène unique. C'est ça la mosaïque, hein, c'est encore autre chose que la peinture. Eh bien, c'est l'illustration exacte de tout ce que je viens de vous dire. L'Église, finalement, c'est comme une mosaïque, vous voyez, où la multitude des croyants, la foule innombrable, hein, que nul ne peut dénombrer, dont on parle l'Apocalypse, qui constitue l'unique Église du Christ, hein, l'unique épouse du Christ, ou la Jérusalem céleste, puisque c'est la scène qui nous est présentée ici. Et donc, vous voyez, il faut prendre toutes ensemble cette multitude de figures spirituelles pour pouvoir contempler l'unique visage du Christ qui se reflète dans son Église. Et qu'est-ce qui se passe s'il manque des petits carrés dans la mosaïque, hein, on a l'expérience, quand c'est des mosaïques très anciennes, abîmées, et ben ça fait des petits trous noirs, quoi. Et la scène, le visage, ben est moins parfait, moins complet. Il manque des morceaux, hein. Alors cette mosaïque de la Jérusalem céleste, vous aurez reconnu évidemment la description qui nous est donnée au terme du livre de l'Apocalypse, hein. Je vous en relis peut-être quelques versets. L'un des sept anges s'en vint me dire: viens que je te montre la fiancée, l'épouse de l'agneau. Il me transporta donc en esprit sur une montagne de grande hauteur et me montra la cité sainte Jérusalem qui descendait du ciel de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Elle resplendit telle une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristallin. je passe toute la description du rempart, vous relirez vous-même, je n'ai pas le temps de tout lire. Les 12 portes sont 12 perles, chaque porte formée d'une seule perle. La place de la ville est de l'or pur, transparent comme du cristal. De temple, je n'en vis point en elle. C'est que le Seigneur, le Dieu maître de tout, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu l'a illuminée et l'agneau lui tient lieu de flambeau. Je passe encore quelques versets. Puis l'ange me montra le fleuve de vie limpide comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, les serviteurs de Dieu l'adoreront, ils verront sa face et son nom sera sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus, ils se passeront de la lampe ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, ils régneront pour les siècles des siècles. Alors, au centre, alors évidemment, c'est l'interprétation du Père Roupnik, hein, il y a des choses qui collent au récit de l'Apocalypse, et puis il y a des interprétations, des petites choses qu'il a ajoutées. Au centre de la mosaïque, la Trinité, le Dieu trois fois saint, source de toute sainteté et de toute spiritualité. Donc vous voyez l'agneau sur le trône et le Père qui est représenté derrière, semblable à Abraham, immolant Isaac, son fils, son bien-aimé. Et puis au dernier moment, l'ange arrête le bras d'Abraham, hein, il dit « voilà, tu trouveras le bélier pris dans un buisson ». Donc la Trinité représentée comme Abraham, la figure paternelle par excellence, offrant Isaac agneau, et l'Esprit Saint représenté comme ce fleuve de vie limpide comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau, hein, donc du Père et du Fils, ou du Père par le Fils. C'est une image là aussi, celle du fleuve de vie, hein, qui reprend une thématique importante dans l'Ancien Testament. Hein. Pensez au fleuve qui jaillit du côté droit du temple dans le livre d'Ézéchiel 47. Et qui donne la vie, la fécondité partout où le fleuve passe. Donc c'est aussi, pour reprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, l'image de la tradition, hein, ce fleuve de vie qui grossit sur son passage, qui s'enrichit au fil des siècles de toute la sainteté de l'Église, de tous les trésors de la sainteté. Et donc le Christ agneau, qui est la réponse à la question naïve d'Isaac, « Mais Père, je vois bien le feu, le couteau, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?»« Mon fils, c'est Dieu qui pourvoira à l'agneau. » Et donc cette question « Où est l'agneau pour l'Holocauste ?» c'est la question qui parcourt toute la révélation, jusqu'à la réponse que va donner le Baptiste « Voici l'agneau de Dieu. » Donc vous voyez, sur cette mosaïque, c'est assez extraordinaire, parce que vous avez l'illustration de ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, que nous sommes contemporains à la fois de toutes les époques. Hein, vous voyez, vous avez Abraham, vous avez Jean-Baptiste, vous avez Marie, vous avez des saints de toutes les époques, mais contemporains aussi de l'éternité. Hein, le passé, le présent et l'avenir sont présents sur la même scène, dans la même mosaïque. Et de cette question initiale du petit Isaac, où est l'agneau ? À la réponse donnée par Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu, vous avez ensuite la scène finale de l'Apocalypse décrivant les noces de l'agneau avec la Jérusalem céleste, avec son Église. Et donc cet agneau, vous voyez qu'il tient entre ses pattes le livre de vie. Donc là, il faudrait relire, mais je n'ai pas le temps de le faire, le chapitre 5 de l'Apocalypse. Qui est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux? Et Jean pleure parce que personne n'est digne de prendre le livre et personne ne peut le lire. Et l'agneau vient prendre le livre et il peut en ouvrir les sceaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le livre de vie, hein, l'alpha et l'oméga. Donc lui seul donne la clé de toute l'économie divine. Hein. C'est par le Christ que nous entrons dans l'intelligence de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu veut vivre avec l'humanité. C'est ça l'image du livre scellé de sept sceaux que l'agneau est seul capable d'ouvrir. Il est la sagesse du Père. Il est vrai Dieu et vrai homme. Il est donc capable de... Il est la lumière née de la lumière, et donc il conjoint dans sa personne l'éternité et le temps. Il est le Verbe de Dieu fait chair. Donc il est celui en qui nous est révélé à la fois le mystère de Dieu et le mystère de l'homme. Et donc c'est très beau de voir que toute l'histoire est comme rassemblée et récapitulée sur la même mosaïque et autour de l'agneau. Et puis enfin, donc devant cette communion trinitaire, hein, le Père, le Fils, l'Esprit, bien vous avez donc à gauche la Vierge Marie et à droite Jean le Baptiste, hein, tous les deux dans un geste d'offrande, d'intercession. Là, le Père Roupnik a repris un motif iconographique, hein, qu'on appelle la Deicis, qui veut dire intercession. Vous avez dans toutes les églises orthodoxes une icône qui représente comme ça Marie et le Baptiste entourant le Christ qui n'est pas d'habitude représenté comme un agneau, mais plutôt le Christ juge. Et vous avez Marie et Jean-Baptiste qui intercèdent tous les deux auprès du Christ juge. Pourquoi Marie et Jean-Baptiste ? Marie comme modèle de la vie contemplative, hein, et le Baptiste comme modèle de la vie ascétique, pénitente. Et puis autour, si vous regardez bien, c'est pas moi qui ai commandé au Père Roupnik la mosaïque, hein, mais vous avez donc Marie, Jean-Baptiste, et puis si vous comptez bien, après vous avez 10 autres saints, donc ça fait 12 en tout. Nous retrouvons notre plénitude. Et vous remarquerez que ces 12 saints, ils ont tous leur nom. Alors il faut avoir une petite loupe, évidemment, hein, mais ils ont tous leur nom sur l'auréole. Hein. C'est une manière de dire, vous voyez, que la sainteté est un mystère éminemment personnel, à la fois communautaire, parce que vous voyez qu'ils sont tous ensemble autour du Christ, et que ça n'est qu'en regardant ces figures spirituelles ensemble que nous pouvons contempler l'Église et contempler le reflet du visage du Christ dans l'Église. Il faut les regarder ensemble. Mais en même temps, vous voyez, cet ensemble n'est pas juste une foule anonyme. Ils ont chacun leur nom, ils ont chacun un lien absolument unique, hein, avec Dieu. Et non seulement la communauté, hein, la communion de l'Église ne supprime pas le lien personnel de chacun avec Dieu, mais au contraire le met encore plus en lumière. Hein. Nous ne serons jamais plus nous-mêmes qu'en recevant le baptême, et jamais plus nous-mêmes que dans la gloire. Hein, on ne sera pas dilués d'une manière un peu... pas du tout. Au contraire, nous serons pleinement nous-mêmes dans la vie éternelle. Et donc ils ont chacun un nom, et ce sont des personnes concrètes, singulières, qui se sont laissées saisir par la grâce. Et chacun a sa place, vous voyez, dans l'harmonie et dans la beauté de l'ensemble. Donc une belle parabole de notre cours, hein, cette mosaïque dans laquelle des milliers de petits morceaux nous donnent à contempler une unique scène. Exactement comme la multitude des figures spirituelles que nous rencontrerons, eh bien, nous donnera comme le visage de la spiritualité chrétienne, de la vie dans le Christ, hein, que nous sommes appelés à vivre depuis notre baptême. Je finis juste par une petite évocation de saint Thomas d'Aquin quand il parle de la vie éternelle, de la béatitude. Il dit « La joie des uns » Non seulement on ne sera pas jaloux les uns des autres, hein, mais il dit « la joie des uns se multipliera par celle des autres ». Alors, c'est ce que nous vivrons dans la vie éternelle. Je souhaite aussi que c'est ce que nous vivions ensemble tout au long de nos séances, hein, que la joie des uns se multiplie par celle des autres, et que nous puissions non seulement fréquenter pour notre joie ces figures spirituelles, mais devenir à notre tour finalement des figures spirituelles les uns pour les autres. Et c'est ça le but. Voilà, donc je vous donne rendez-vous jeudi prochain, et nous regarderons donc l'enracinement du mystère chrétien dans le terreau d'Israël, et puis la nouveauté, hein, la manière dont la spiritualité du Christ est née chez saint Paul, chez saint Jean, et puis chez les premiers pères apostoliques. Merci.